de la presse d'Europe 1, 19h-20h, Nicolas Poincaré.
Le club de la presse en direct jusqu'à 20h avec deux invités, puis le journal de la présidentielle juste avant 20h avec Maud Descamps. Les invités, après 19h30, nous serons avec Pierre Bonte, l'éternel passionné du monde rural, le présentateur de Bonjour Monsieur le Maire pendant 15 ans sur Europe 1. Mais tout de suite, la première invitée du club de la presse d'Europe 1, c'est la présidente de Médecins du Monde, le docteur Françoise Sivignon. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous venez ce soir nous alerter sur un risque majeur, la famine qui menace l'Afrique et le Yémen et qui pourrait causer un nombre de morts massif. C'est en tout cas l'expression qui a été utilisée cette semaine par l'ONU. Vous allez nous expliquer ce qui se passe en répondant aux questions d'Arlette Chabot et d'Olivier Duhamel. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Françoise Sivignon, est-ce que les humanitaires sont aujourd'hui en état d'alerte, comme on peut le supposer quand on entend ce que l'ONU nous a annoncé cette semaine ?
Alors oui, on est en état d'alerte, hein, parce que comme vous l'avez mentionné, il y a une famine qui a été déclarée, alors en l'occurrence dans un seul pays pour l'instant, qui est le Soudan du Sud. Il y a des critères très précis pour parler de famine, donc il y a trois critères, dont par exemple, un des critères est 30% de malnutrition aiguë chez les enfants et 2 décès parmi ces enfants sur 10 000. Donc il y a des critères précis de déclaration de famine. Et même si on dénombre environ 20 millions de personnes sur la Corne de l'Afrique en très grande insécurité alimentaire, pour l'instant, seul le Soudan du Sud a été déclaré en état de famine.
Alors il y a aussi le Yémen qui est sans doute à part, parce que là-bas c'est vraiment la guerre. Pour le reste de l'Afrique, quand on parle du Sud-Soudan, quand on parle de l'Éthiopie, quand on parle du Nigeria, les causes sont quoi ? Météorologiques d'abord ou...
Alors, il y a aussi des causes de conflits, si on parle de la Somalie, hein, avec les Shebab et des conflits qui durent depuis presque 20 ans maintenant, au Nigeria également. Hein, donc, on peut pas exclure tout de suite comme origine parallèle les conflits au Nigeria, au Sud-Soudan, en Somalie, et on pourra parler effectivement du Yémen. Il y a une très grande sécheresse, notamment en Somalie. Il y a eu des sécheresses successives, et depuis 3 ans, ce pays fait face à une sécheresse très importante, donc avec une agriculture qui ne remplit plus ses fonctions, de l'eau qui n'est plus disponible. Donc c'est une des causes qui explique cet état de famine.
Olivier Duhamel.
Pourquoi est-ce que les candidats à l'élection présidentielle n'en parlent quasiment pas ? Vous êtes d'accord qu'ils n'en parlent quasiment pas ? Qu'est-ce que ça signifie ?
Ça
signifie
que
c'est un sujet qui a disparu de l'horizon politique français, ça veut dire que...
Des médias aussi, d'ailleurs.
Et des médias. Alors qu'on est... Ça a été qualifié, en particulier le Yémen, mais on peut bien évidemment l'étendre à la Corne de l'Afrique, comme plus grande crise humanitaire actuelle. Au Yémen, il y a 17 millions de personnes en insécurité alimentaire, parce que là, les conflits prédominent, on va dire, avec des causes qu'on pourra éventuellement développer, mais... Il n'y a pas eu d'attention particulière. Nous, on a été voir les équipes de campagne, on a essayé de leur parler des sujets qui intéressent le territoire français, mais bien au-delà. On ne peut pas se limiter au territoire français. On a essayé d'évoquer les questions liées au droit humanitaire international, parce qu'il faut savoir, au Yémen comme en Syrie, les hôpitaux sont systématiquement bombardés. Donc on est dans des violations systématiques des droits des personnes.
C'est parce que c'est notre ami, entre guillemets, ou notre allié, l'Arabie Saoudite.
Alors effectivement, on vend des armes à l'Arabie Saoudite, qui est à la tête de la coalition qui vient bombarder le Yémen. Absolument. On les a interpellés aussi là-dessus. Mais on a été peu écoutés, on va dire, et peu repris surtout.
Mais est-ce que, par ailleurs, vous voyez, vous, dans les campagnes que vous faites, si chez les Français... Il y a des intérêts croissants, ou si au contraire vous arrivez à peu près à mobiliser comme vous pouviez le faire dans le passé. Chez les Français, ça a beaucoup changé. Il y a une lassitude, il y a une indifférence, ou au contraire, non, il y a toujours, vous arrivez toujours quand même à mobiliser. Et à ce moment-là, est-ce que ce serait un décalage entre le sens de ma question, pardon, je bafouille un peu, c'est intellectuellement, je veux dire, c'est un décalage entre les Français et les politiques, ou bien c'est un phénomène général qui englobe les deux? C'est à peu près précis.
Je pense qu'il y a un décalage entre les préoccupations des Français telles qu'on les leur a présentées, qui crispent sur le territoire français, sur des questions qui bien évidemment les intéressent, le chômage, les migrants, et on pourra reparler de Grande-Synthe puisque c'est d'actualité, et ce qui se passe à l'extérieur. Alors qu'en fait, et si on reparle des migrations, bien évidemment il y a un lien profond entre ces personnes qui fuient des zones de conflit, des zones de famine, et ceux qui tentent d'atteindre le territoire européen. Et donc c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas cette approche qu'on peut tous entendre et comprendre entre ce qui se passe autour de nous, en Europe, mais bien au-delà, et ce qui se passe sur le territoire français. On est en plus dans quelque chose qui n'est pas fini, qui ne fait que commencer. C'est une urgence, là, si on en revient à la famine, c'est une véritable urgence. Il y a 20 millions de personnes qui sont quasiment en danger de mort. Et on voit une certaine atonie, effectivement, parce que je pense qu'on ne présente pas les choses de façon à ce qu'il y ait une implication, une proximité des soucis qu'ont ces pays. C'est plus que des soucis, c'est vraiment de la survie de ces personnes face au quotidien des Français.
Alors, 20 millions de personnes en danger de mort, c'est ce que vous nous dites ce soir, c'est un peu ce que disaient l'ONU et le HCR aussi cette semaine, en chiffrant à 4,5 milliards de dollars les sommes nécessaires. Si on avait 4,5 milliards, on sauve ces 20 millions de personnes ?
Oui, alors là aussi, je peux me permettre une comparaison. C'est 4,5 milliards de besoins immédiats. Seuls 21% sont déboursés à l'instant, donc on est loin, loin du compte. Et si on la compare, je regardais avant votre émission, l'argent dédié aux armes, enfin le financement des armes dans le monde, en 2016, c'était 1676 milliards de dollars. Donc, enfin, c'est vrai qu'il y a un fossé entre cette urgence humanitaire qui a à notre porte quelque part et des dépenses qui sont conséquentes et qui ne font que croître concernant les dépenses militaires.
Et la France, par exemple, paye sa quote-part ?
Alors la France, elle est fournisseuse d'armes à l'Arabie Saoudite. Hein. Elle est quatrième vendeur d'armes au monde.
Oui, non, mais je parlais de sa quote-part pour essayer de trouver les 4 milliards pour sauver les 20 millions
de personnes. Il parlait de la quote-part des bombardeurs.
D'accord. Alors on attend un engagement du gouvernement français sur ces questions de famine de la Corne de l'Afrique. On est en attente, en fait, de financement.
Oui, et vous êtes sur place, sur le terrain, les organisations humanitaires, mais sans moyens, sans véritables moyens.
Alors ce qui est très compliqué, c'est que, comme on le dit souvent, il n'y a pas d'intrant pour l'instant. Si on veut faire face à cette famine, donc répondre aux besoins des populations, il va falloir faire rentrer de la nourriture. Si on parle du Yémen, 90% de la nourriture était importée avant le conflit qui a débuté en mars 2015. Donc c'est des volumes massifs d'alimentation et de nourriture qu'il va falloir faire rentrer. Donc il y a, un, le problème de l'approvisionnement et deux, le problème de l'accès. On n'a pas accès à ces populations parce que les humanitaires comme les autres sont ciblés, que l'accès n'est pas libre. Hein. C'est des zones de conflit, donc c'est compliqué. La Somalie, c'est pareil. C'est compliqué de se déplacer par exemple jusqu'à Mogadiscio.
Mais comment est-ce que vous voulez que les gens se mobilisent et aident si on leur dit que de toute façon, on ne peut pas apporter la nourriture ?
Ben, il va falloir mettre en parallèle, je dirais, de la diplomatie, c'est-à-dire qu'il faut un cessez-le-feu. En l'occurrence, je crois qu'il y a des négociations et des discussions qui reprennent au Yémen entre les parties prenantes quelque part. Donc la diplomatie est bien évidemment clé. Et puis une demande, nous, d'avoir accès humanitaire dans le même temps. Donc tout ça, il faut que ça se mène évidemment dans le même temps.
Alors il y a un YouTuber qui s'appelle Jérôme Jarre, un jeune Français qui vit aux États-Unis, qui est assez populaire en faisant des petits sketchs sur Internet. Il a entendu parler de cette famine, ça l'a révolté, il a lancé un appel et il a recueilli en quelques jours 2,5 millions de dollars. Il a fait appel à Turkish Airlines pour pouvoir déjà envoyer des avions et quelques tonnes de riz là-bas. Est-ce que ce genre d'initiative, ça sert à quelque chose ? Est-ce que ça marche ?
Ça sert à mettre l'attention de l'opinion publique sur ce problème en particulier, donc ça c'est bien. Après, une fois que les intrants, en l'occurrence, je pense que c'est du riz, c'est ça,
c'est du riz qu'il
a amené, il faut pouvoir le distribuer. Et donc on en revient après comment ça se distribue. Il faut après que ça soit distribué de façon équitable et en fonction des besoins des populations, bien évidemment.
Alors la question qu'on peut se poser aussi, François Sévignon, c'est est-ce qu'il y a un risque de voir tous ces gens, pour échapper à la famine, venir vers l'Europe comme les réfugiés syriens? On en parle juste après une première pause.
Et n'hésitez pas à cliquer le Club de la Presse, c'est aussi en direct et en vidéo sur Europe1.fr. Le Club de la Presse d'Europe 1 avec vous, Nicolas Poincaré, avec Arlette Chabot et Olivier Duhamel, et vous recevez la présidente de Médecins du Monde, le docteur Françoise Sivignon.
Pour parler essentiellement des risques de famine au Yémen, dans la Corne de l'Afrique, au Nigeria, au Sud-Soudan, Françoise Sivignon, la question qu'on se posait juste avant la pause, c'est de savoir si ces gens qui risquent, vous parlez de 20 millions de personnes qui risquent de mourir de faim, est-ce que ça risque d'entraîner aussi une crise migratoire, une arrivée de ces Africains vers l'Europe ?
Alors, ceux qui migrent, qui bougent, ont les moyens de migrer. Les plus pauvres ne pourront pas bouger. Il faut un peu d'économie pour emprunter ces voies ô combien dangereuses qu'on connaît. Et donc, une certaine économie pour pouvoir passer en Europe, par exemple. Donc, il faut déjà être en capacité de le faire. Les plus pauvres ne bougeront pas.
Mais pour ceux... Vous pouvez chercher un truc pour arriver à mobiliser, si vous aidez pas.
Mais pour ceux qui vont passer,
ceux qui ne vont pas bien... ceux qui risquent de mourir de faim, on les voit pas entamer une marche vers l'Europe de toute façon, non?
Exactement. Enfin, ouais, ils se déplacent. Simple, puis il faut savoir que 80% des migrations dans le monde se font en sud-sud, donc les gens bougent en proximité. Mmh. On n'aime pas trop. La plus grande pauvreté quelque part, c'est de quitter son pays. Donc, et on voit dans les témoignages qu'on peut recueillir sur nos terrains que, en l'occurrence, les personnes sont attachées à leur pays. Donc ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas les moyens financiers de s'éloigner de leur pays, le feront, prenant tous les dangers, ceux qui passent par la Libye et encore plus par la Méditerranée.
Il y a quand même du vrai dans ce que supposait la question de Nicolas Poincaré, c'est-à-dire que même si ce sont des gens qui ont un peu de moyens, si autour d'eux la famine se met à atteindre des ravages, ça les incite plus à partir que si leur pays allait mieux.
Bien sûr, bien sûr, ils quittent. Et d'ailleurs, on voit dans toute cette corne de l'Afrique qu'il y a beaucoup, beaucoup des millions, ce qu'on appelle de déplacés internes, qui bougent, ou de transfrontaliers, mais beaucoup de déplacés internes qui se regroupent. Et c'est là où l'aide humanitaire prend tout son sens pour essayer de répondre aux besoins des gens qui se regroupent lors de ces déplacements.
Alors, en attendant la crise migratoire en Europe, c'est donc surtout les Afghans et les victimes du conflit en Syrie. Un certain nombre d'entre eux avaient trouvé refuge dans ce camp de Grande-Synthe que le maire avait créé avec votre aide, si je ne me trompe.
Avec Médecins Sans Frontières.
Avec Médecins Sans Frontières, pardon. Ce camp qui a brûlé cette semaine. Quelle est la situation à votre connaissance là-bas dans cette région de la Manche?
Alors c'est un camp qui avait été construit il y a un an environ, qui était conçu comme ce qu'on appelle un centre de premier accueil. C'est-à-dire que c'est un camp qui est provisoire. Les gens sont là en attente d'un futur meilleur, on va dire, et puis d'une information sur le droit d'asile en particulier. Donc c'était un camp qui a été conçu comme provisoire pour 700 personnes. Au début, c'était essentiellement une population kurde. Au moment du démantèlement de Calais, un certain nombre d'Afghans et de Pakistanais sont venus se mêler à la communauté kurde, faisant passer la population de ce camp de 700 à 1500. Et il y a un mois, Médecins du Monde avait déjà dénoncé les conditions sécuritaires et sanitaires qui n'étaient pas bonnes, en disant attention, autant ce camp a été conçu initialement avec des normes, ce qu'on appelle des normes humanitaires. Donc c'était un camp qui était accueillant, avec des sanitaires, enfin c'était un camp qui fonctionnait bien. Mais là, depuis quelques semaines, ça dysfonctionnait avec des violences inhérentes à la proximité des personnes et à l'état sanitaire qui n'était pas bon. On avait décrit en particulier des cas de gale qui étaient assez nombreux dans ce camp.
Et la jungle de Calais, est-ce qu'on a bien fait de la démanteler au printemps dernier?
Alors on a bien fait de démanteler parce qu'on ne laisse pas des personnes et des mineurs en particulier, parce qu'il y avait plus de 1000 dans des états sanitaires et des conditions de vie aussi indignes. Donc évidemment, on ne peut pas laisser sur le territoire français et partout dans le monde des gens vivre dans de telles conditions. Après, la façon dont ça a été démantelé, ça s'est plutôt bien passé. L'accueil qui est fait dans ce qu'on appelle les CAO, les centres de soins, les centres d'accueil et d'orientation, il y en a environ 450 sur tout le territoire français. Initialement, ça s'est plutôt bien passé. Le problème, c'est que maintenant, ces centres sont pleins et que, en l'occurrence, l'après n'est pas imaginé.
L'après, c'est-à-dire?
L'après, c'est-à-dire que ces personnes ont besoin de savoir de quoi sera fait leur futur. Oui. Donc, pour partie, sont orientés vers une information et donc un droit d'asile pour ceux qui ont droit. Pour partie, ils reprennent la route de l'Angleterre en particulier, ou des pays du Nord. Ils ne restent pas dans ces CAO. Et puis, les dispositifs sont pleins. Et encore une fois, on a des dispositifs qui ne sont pas du droit commun. Donc, on en fait des personnes à part.
Et ça veut dire que pour vous, il faut recréer une structure, parce qu'il y a un débat, le gouvernement a dit qu'il n'était pas question, et le ministre de l'Intérieur le rappelait, de recréer un camp à Grande-Synthe. Vous pensez que d'une manière ou d'une autre, on sera obligé de le faire?
Oui, et déjà, c'est ce qu'on avait dit au moment où Calais avait été démantelé, et où à l'époque, il y avait dans Calais, dans le dispositif prévu, il y avait un centre de premier accueil qui accueillait environ 700 personnes, qui a été détruit. Et nous, on avait dit aux autorités, on leur avait dit, les gens vont revenir. Ils ont envie de passer en Angleterre. Donc, effectivement, ils sont revenus très, très rapidement. Donc, il faut ces structures dites de premier accueil où les gens puissent être accueillis, protégés, se reposer un peu, parce qu'il faut connaître un peu leur parcours migratoire qui sont douloureux, qui sont d'une violence absolument inouïe pour la grande majorité. Voilà, et leur espoir est ailleurs, donc il faut les accompagner.
Si on essaie d'imaginer comment sortir de ce cercle vicieux dans lequel vous avez des gens ceux qui obtiendront le droit d'asile, très bien, leur problème sera réglé, ils obtiendront le droit d'asile, et a priori, c'est pas le plus grave. Mais ceux qui ne l'obtiennent pas, qui veulent aller en Angleterre, une petite poignée, une petite partie va y arriver, pas les autres. parmi ceux qui n'y arriveront pas, une petite partie va être prise et expulsée et renvoyée dans leur pays d'origine. Quel est le moyen? Et les autres vont errer comme clandestins et comme sans papier. Qu'est-ce qu'il faut imaginer comme type de solution à moyen terme pour arrêter ça, que ça fonctionne si mal?
Alors ça fonctionne mal parce que depuis le début de ce qu'on a appelé mal nommé la crise migratoire, qui est en fait une crise politique, hein, qui est une crise de l'accueil, une crise de la protection, on parle de quelques milliers de personnes. Hein. Il y a eu 86 000 demandes d'asile en France l'an dernier et 30% de réponses positives. Donc on parle de quelques milliers de personnes. En face de ça, il faut qu'un État comme la France puisse accueillir et protéger ces personnes. Mmh. Pour ceux qui veulent rester en France. On a les moyens de le faire, sans opposer les précarités. Mais tout ça n'est qu'une question de volonté politique. Et quand on compare aux autres pays, alors rien n'est comparable, hein, la Suède, l'Allemagne, etc. Ils ont des besoins différents, ils ont des taux de chômage différents. Mais dans la mesure où on parle de quelques milliers de personnes en France, l'État français a les moyens, mais n'a pas eu la volonté politique d'intégrer ces quelques milliers de personnes.
Je ne me trompe pas, il y a un statut en deçà de celui d'asile, du droit d'asile. Entre clandestin et droit d'asile, il y a un statut intermédiaire qui permet de donner une protection.
Bah, c'est demandeur du droit d'asile en attendant.
Non, je veux dire, quand
vous attendez votre
demande
d'asile.
Mais il n'y a pas, ou est-ce qu'il ne faut pas, alors si je me trompe et qu'il n'y a pas, est-ce qu'il ne faut pas inventer un statut, par exemple, un statut
intermédiaire
d'accueil pour quelques années, mais un statut qui ne soit pas aussi protecteur que droit d'asile, mais qui ne soit pas de les jeter dans la clandestinité.
Oui, en l'occurrence, il faut qu'adossé à ça, il y ait une possibilité de travailler. Enfin, on ne peut pas demander à quelqu'un de rester dans l'incertitude comme ça de son futur et de sa famille, parce que souvent, on a envie d'avoir des conjoints, une famille, des enfants, etc., sans futur envisageable. Et en fait, c'est surtout le potentiel de ces personnes qu'on n'arrive pas à voir, parce qu'on les stigmatise avant de parler de leur possibilité, de leur capacité à s'intégrer.
Françoise Sivignon, un dernier mot. Médecins du Monde se bat en Afrique contre la famine, on vient d'en parler longuement, mais vous avez aussi une mission en France. Et cette mission France, elle se mobilise beaucoup ces derniers temps contre le prix du médicament. Il y a des médicaments, en particulier pour le traitement de l'hépatite C, qui coûtent beaucoup, beaucoup trop cher. Qu'est-ce que vous avez réussi à obtenir?
Oui, on s'est mobilisé depuis quelques mois, presque une année, en France et en Europe, hein, puisqu'on a des médecins du monde un peu partout en Europe et dans le monde d'ailleurs, contre le prix exorbitant de certains médicaments. Donc on a pris à titre de point d'entrée un médicament qui s'appelle le sofosbuvir, qui est donc un antiviral à action directe, qui vient traiter l'hépatite virale C et guérir l'hépatite virale C. Et donc le prix dit facial d'entrée était de 48 000 euros pour 3 mois. Donc voilà, on a interroger, questionner l'État sur son rôle régulateur, parce qu'en l'occurrence, les prix exorbitants de ce médicament a fait que certains patients n'avaient pas accès à ce médicament.
Et c'était une première en France. C'était la première fois qu'on avait des gens à qui on disait non, le médicament est trop cher.
Le combat continue.
Il y a
donc
des pays où il coûte beaucoup moins cher, c'est ça?
En Inde, le générique est vendu une centaine d'euros.
Absolument. Et nous, on n'a pas le droit de vendre de générique, c'est ça?
Alors, on n'a pas le droit de vendre de générique, sauf si on active un mécanisme qui s'appelle la licence d'office, qui est un mécanisme juridique qui permet, en cas d'obstacle financier à l'accès à un médicament ou de rupture d'approvisionnement, de mettre un générique sur le marché.
Voilà pour vos combats à la tête de Médecins du Monde, Françoise Sivignon, contre la famine en Afrique et pour faire baisser le prix des médicaments en France et pour mieux accueillir les réfugiés du côté de Calais et de Grande-Synthe. Merci beaucoup.
Merci
d'être venu nous voir dans le Club de la Presse. On marque une pause et on se retrouve avec Pierre Bonte.